Radio Starbell.
Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Je ne vais pas vous le traduire, mais c'est le message des amateurs du carnaval de Rio à leur mère, et c'est pas de la dentelle. Vous verrez dans l'escale reportage d'Un jour dans le monde combien les relations entre le maire évangélique de Rio et le carnaval sont mauvaises. Florence Paracolo, sous les radars, vous promet des chips pour les filles. Non mais sérieusement, mais pas seulement. 18h50, les médias en 360 avec Dorothée Barba. On parle porno, on parle d'une grosse bourde en Chine et de la Saint-Valentin au Pakistan. 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger en Macédoine ce soir, enfin Macédoine encore pour l'instant, on verra bien le temps que ça prendra pour changer de nom, mais tout de suite, on a appris à le connaître, ce dirigeant nord-coréen qui a toujours une idée derrière la tête. Il y en a forcément une derrière cette histoire de diplomatie du hockey sur glace, et on y vient tout de suite. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
Autrefois, on appelait ça la diplomatie du ping-pong. Autre sport, autre temps, c'était l'époque où on s'échangeait des joueurs de tennis de table entre les États-Unis et la Chine, à l'époque de Nixon. Aujourd'hui, à l'éveil donc de ces ouvertures de jeux d'hiver, c'est la diplomatie du hockey. Cette fois, c'est plus un affrontement choc entre deux blocs, mais c'est plutôt cette équipe donc mi-nord, mi-sud, équipe féminine qu'on regarde avec beaucoup de gourmandise. Une délégation de 22 athlètes du Nord quand même et autres supporters. Bonsoir Juliette Morillo.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste de la Corée. Vous venez d'écrire notamment avec Dorian Malovic, Le Monde selon Kim Jong-un, s'est publié chez Robert Laffont. Cet épisode olympique, on le regarde comment en fait ? On le regarde comme du folklore ou comme un vrai, vrai enjeu géopolitique ?
Je pense que c'est une trêve olympique. C'est le principe des Jeux olympiques, c'est-à-dire que c'est un apaisement qui est nécessaire sur la péninsule. Depuis un an, on a assisté, depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, on a assisté à des tensions qui ne cessent de monter, qui sont allées très très haut. Et là, c'est une trêve. Et le principe d'une trêve, c'est que toute trêve a une fin. Et que si pour l'instant, on peut se réjouir de ce rapprochement entre Séoul et Pyongyang, on peut se dire que malheureusement, une fois les Jeux olympiques et paralympiques terminée, le problème de base à l'origine des tensions sur la péninsule, c'est-à-dire le fait que la Corée du Nord possède l'arme nucléaire, n'aura pas été traité et que malheureusement, les tensions risquent de ressurgir.
Alors là quand même, qui lance le processus ? Qui dit à l'autre, viens donc participer au jeu chez moi ? Qui commence en fait ?
Bien, à l'origine, les Sud-Coréens avaient demandé aux Nord-Coréens. Mais là où Kim Jong-un est vraiment le smart cookie, le petit malin dont avait parlé Donald Trump, c'est qu'après une année de provocation, une année d'essais nucléaires, d'essais balistiques, c'est lui qui a tendu le rameau d'olivier. Donc il apparaît comme un pacificateur, non pas non seulement vis-à-vis de son peuple, mais aussi vis-à-vis des Sud-Coréens. Et ce qu'il veut, lui, c'est en effet un dialogue direct avec Séoul, et en même temps exclure les États-Unis.
Le dialogue direct avec Séoul, c'est surtout ça que ça dit, en fait. Ça dit, j'ai pas besoin des États-Unis de toute façon, mais est-ce que discuter avec Séoul, c'est aussi peut-être essayer de passer par-dessus les Américains pour que les sanctions soient moins importantes ? Est-ce qu'il peut rentrer par la fenêtre comme ça, Kim Jong-un ?
C'est avant tout, en effet, marginaliser les Américains. Il y a une caricature qui est parue, je sais plus si c'était dans le South China Morning Post, où on voyait en fait les deux équipes nord-coréennes et sud-coréennes d'athlètes défilant sous une bannière représentant non à Trump et non pas une bannière unifiée non à Trump, parce que Kim Jong-un finalement surfe sur un sentiment commun qu'ont tous les Coréens nord et sud d'avoir toujours été au cours de leur histoire dépossédés de leur destin. C'est-à-dire, il y a un proverbe en coréen qui dit, quand les baleines se battent, les crevettes ont le dos rompu. Les baleines, c'est les grandes puissances. Puis quand vous regardez le 38e parallèle qui sépare les deux Corées, vous voyez bien qu'au nord vous aviez autrefois l'Union soviétique, maintenant en filigrane la Chine, et au sud vous avez les Américains. Et bien là, les Kim Jong-un finalement attisent cette sorte de rancœur historique des Coréens et s'adressent directement aux Sud-Coréens. Ayez une réponse, parce que le président sud-coréen a lui-même été élu sur un programme de main tendue avec Pyongyang.
Alors justement, les Nord-Coréens ont dit qu'il n'est absolument pas question de rencontrer les Américains du tout pendant cette période-là. D'abord, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura quand même une rencontre qui se passera ou pas du tout ?
Moi, je pense qu'officiellement, il n'y en aura pas, mais je suis persuadée qu'en coulisses, il y a forcément des rencontres et qu'il y a encore des contacts. N'oubliez pas que ne serait-ce qu'aux Nations Unies, à l'ONU, aux États-Unis, vous avez des Nord-Coréens. Donc, en coulisses, il y a certainement des discussions.
Mais donc, ça veut dire coulisses avec les Américains. J'imagine, ça veut dire coulisses avec les Chinois. Ça veut dire coulisses avec les Russes aussi. Il peut y avoir, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se débloquer au moment de cette fameuse trêve, comme vous dites?
Déjà, ce qui est important, c'est que pour la première fois, la Corée du Nord envoie quand même une délégation avec à sa tête deux personnes très importantes.
Alors, j'allais vous demander qui était cette sœur, en effet. Ouais.
Vous avez Kim Yo-jong, qui est la petite sœur de Kim Jong-un, qui a fait également à l'origine, je vous le rappelle, des études en Suisse, et qui représente, qui sera le premier membre de la famille Kim, donc de la famille dirigeante, à aller en Corée du Sud, et qui en plus va rencontrer le président sud-coréen, mais beaucoup moins glamour que Kim Yo-jong. Vous avez un autre personnage très important, qui est de facto le chef de l'État nord-coréen, qui est Kim Yong-nam, qui est un vieux monsieur qui a connu les trois dirigeants et qui est le plus haut dignitaire du gouvernement nord-coréen à aller au sud depuis la fin de la guerre de Corée. Donc c'est vraiment un duo de choc qui va se retrouver à la Maison Bleue et qui va déjeuner avec le président sud-coréen. Donc c'est vraiment un symbole très très fort.
Donc ça veut quand même dire quelque chose autre effectivement que le moment de la trêve et de ce match de hockey. Est-ce qu'il peut se passer un déblocage? Est-ce que l'espérance de la Corée du Nord précisément c'est de desserrer un petit peu l'étau? Est-ce que quand même ils ont ça derrière la tête ou pas?
La Corée du Nord en fait veut un dialogue direct et elle veut un apaisement en effet des tensions. Mais encore une fois, en parallèle, n'oublions pas qu'aujourd'hui, vous aviez à Pyongyang un grand défilé, une démonstration de force, où on a vu défiler des missiles balistiques intercontinentaux, des Hwasong-14, des Hwasong-15, qui rappellent simplement, comme Kim Jong-un l'a rappelé dans son discours, que la Corée du Nord est une puissance nucléaire et balistique. Donc, en parallèle, en fait, ils poursuivent imperturbablement leur politique. Dialogue direct avec Séoul, et puis vis-à-vis, parce que les tensions en fait, elles ne sont pas entre Séoul et Pyongyang, c'est ça qu'il faut comprendre. Les tensions, elles sont entre Pyongyang et Washington. Donc d'un côté, ça va s'apaiser, mais en même temps, Séoul a un peu les mains liées avec son allié américain.
Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait pour ne pas froisser ces Nord-Coréens? Il y a eu d'abord le bateau qui est arrivé, qui manquait de fuel. Il a fallu lui donner du fuel, sauf qu'on n'a pas le droit, théoriquement, puisque l'embargo empêche, les sanctions empêchent de donner du fuel. Il y a les maillots que les joueuses ne voulaient pas made in USA. Il y a les crosses de hockey qui sont des crosses en fibre, mais qui sont sud-coréennes. Il y a l'histoire des téléphones portables. Il paraît qu'on leur a donné des Samsung, mais qu'est-ce qu'on fait avec les téléphones portables? Est-ce qu'il faut les rendre? Est-ce qu'on est en train de mettre tout, un peu les petits plats dans les grands, quand même, pour ne pas froisser ces Nord-Coréens?
Alors, c'est pas seulement pour ne pas froisser les Nord-Coréens, c'est simplement que les Sud-Coréens ne peuvent pas contrevenir aux sanctions. Je vous ferai remarquer que Kim Yo-jong, donc la sœur de Kim Jong-un, et Che-hee, qui est un des autres membres de la délégation haut placé qui va venir en Corée du Sud, sont tous les deux interdits d'après les sanctions onusiennes.
Ils sont sur une blacklist, liste noire même.
Ils sont sur une blacklist, donc les Nations Unies ont dû faire une exception. C'est-à-dire que là, la Corée du Sud est finalement un peu pieds et poings liés par ces fameuses sanctions. Elle ne peut pas y avoir des problèmes. Est-ce qu'on va leur donner de l'argent? Est-ce que les survêtements, ce sera les mêmes survêtements que le reste de l'équipe? Il y a toute une foule de problèmes qui arrivent et puis d'autres choses auxquelles on pense pas. Par exemple, agiter des drapeaux nord-coréens en Corée du Sud, c'est passible de poursuite. C'est un crime, ce n'est pas admis. Il ne faut pas oublier que Corée du Nord et Corée du Sud sont techniquement.
Mais je croyais qu'on allait agiter que le drapeau de la péninsule, du coup, sans agiter le drapeau nord-coréen. Si,
on a. Je pense que maintenant, on a le droit, c'est une exception en Corée du Sud, on aura le droit d'agiter aussi le drapeau nord-coréen, oui.
Et l'hymne, par ailleurs, est changé. C'est-à-dire que les Coréens du Nord n'ont pas chanté l'hymne de Corée du Sud. Donc, qu'est-ce qu'on chante à la place?
Alors, je crois qu'on va chanter une chanson qui est finalement beaucoup chantée en Corée du Nord comme en Corée du Sud, qui est le Arirang, qui est un chant traditionnel commun aux deux pays.
Et c'est justement ce qui ennuie beaucoup certains Coréens du Sud, parce qu'on va le voir dans un instant, la population est extrêmement mitigée, elle est même majoritairement très sceptique vis-à-vis de cette équipe mixte, j'allais dire, Corée du Nord, Corée du Sud. Je voudrais qu'on écoute d'abord ce monsieur que Benjamin Illy a rencontré, qui est plutôt qui est un transfuge et plutôt connu de son côté, puisque c'est lui qui était notamment à l'initiative de ce lâcher de ballon qu'il y avait eu un moment pour que des messages puissent aller du sud vers le nord. Écoutez-le.
Mr. Park. Ouais. Park Sang-ak vient de nous rejoindre. Il n'est pas tout seul, il est accompagné par un monsieur qui se tient un peu à l'écart. Les policiers, d'accord.
La Corée du Nord a annoncé ouvertement qu'elle voulait m'assassiner. C'est pour ça qu'il est là pour me protéger. Hitler a aussi organisé les Jeux Olympiques de Berlin et ce n'était certainement pas les Jeux de la paix. Il a fait semblant de vouloir la paix, il s'est servi du sport. Kim Jong-un fait la même chose. Kim Jong-un, c'est le Hitler du 21e siècle. C'est juste une tromperie. Kim Jong-un est sanctionné économiquement et politiquement par l'ONU et la communauté internationale. Son objectif est de faire tomber ces sanctions et d'empêcher l'alliance entre les États-Unis et la Corée du Sud en utilisant les JO. Il ne veut pas sincèrement participer aux JO. D'ailleurs, il organise cette parade militaire juste avant l'ouverture. Au départ, cette parade était programmée le 25 avril et tout d'un coup, il change la date et la déplace au 8 février, la veille des JO. Pyongyang menace la communauté internationale avec ses missiles et sa parade militaire. C'est une duperie. Le gouvernement sud-coréen a peur de l'arme nucléaire et des missiles de la Corée du Nord. Il mendie la paix de manière lâche et soumise. Il faut être plus ferme. Jusqu'à présent, aucun pays hôte des Jeux Olympiques n'a renoncé à son drapeau, son nom et son hymne national lors d'une cérémonie d'ouverture. Mais au JO de Pyeongchang, avec cette délégation réunifiée, on n'a pas de drapeau sud-coréen, pas d'hymne national. On chante Arirang, le chant traditionnel au lieu de notre hymne. On chante Arirang et ça n'a aucun sens.
Juliette Morillot, quand on entend ce monsieur, qu'est-ce qu'on dit? On est dans l'ultra-contre-propagande, c'est ça, vis-à-vis des Nord-Coréens?
Bien évidemment, c'est-à-dire d'un côté les Nord-Coréens font de la propagande, les Sud-Coréens, les Américains en font aussi. Et là, j'ai écouté ce témoignage.
Mais en utilisant ce genre de personnage, justement, vous le pensez réellement?
Bien évidemment. D'ailleurs, Donald Trump a dit qu'il, lors de son discours de l'Union, a fait appel à justement un réfugié nord-coréen en Corée du Sud. Il a fait appel également au père d'Otto Van Beer. Je vous rappelle, Otto Van Beer, c'est cet étudiant qui est mort et qui a été emprisonné en Corée du Nord. Et donc, chacun utilise tous les moyens, tous ces moyens et la propagande va des deux côtés. Mais quand j'entends ce monsieur dire que la Corée du Nord menace le monde entier, il faut savoir qu'en fait, l'arme nucléaire et les missiles balistiques de la Corée du Nord ne menacent pas la Corée du Sud et finalement sont purement dissuasifs. Les Nord-Coréens finalement sont très rationnels depuis des années. Ils ont cette arme nucléaire et ces missiles balistiques intercontinentaux pour se protéger de ce qu'ils jugent être une menace permanente, c'est-à-dire la menace américaine. Puis il faut dire qu'avec 30 000 soldats américains quand même au sud et des manœuvres militaires conjointes régulières, on m'a dit à Pyongyang où j'étais encore au mois de novembre qu'on ne voulait pas terminer comme Saddam Hussein ou Kadhafi.
Mais quand même, si je me fie à un sondage qui est paru il n'y a pas si longtemps d'un organisme qui s'appelle Hankook Research pour le Comité de la Réconciliation et la Coopération du Peuple, qui dit que 58,7% des Sud-Coréens sont contre cette fameuse équipe mixte par exemple. Ils disent également que 47% sont contre le seul drapeau de la péninsule en fait, à agiter, et 88% même pour la paix et non pour la réunification. Est-ce qu'il y a un problème de génération? En fait,
c'est exactement ça. C'est une fracture générationnelle. C'est-à-dire, pour simplifier, vous avez tous ceux qui ont connu la guerre, qui sont plutôt conservateurs, qui sont plutôt partisans d'une politique dure envers la Corée du Nord, qui était d'ailleurs la politique qu'avait Park Geun-hye, la précédente présidente, celle qui a été destituée l'an dernier. Et eux s'opposent à finalement, donc eux, ils voient d'un très mauvais œil l'accueil que l'on réserve aux Nord-Coréens. Et vous avez à côté une génération plus jeune qui est un petit peu indifférente à cette Corée du Nord qui correspond finalement à des photos jaunies. Ça n'évoque plus grand chose pour eux. Et puis une jeunesse qui s'intéresse plutôt à ces problèmes économiques, c'est-à-dire la réunification, tout ça c'est loin, ils pensent au chômage, aux problèmes de société. Donc vous avez les jeunes d'un côté qui ont élu Moon Jae-in, ce président, qui sont prêts à une ouverture avec la Corée du Nord qu'ils redoutent moyen, mais ils pensent surtout à leur quotidien. Et puis vous avez ces 58% qui sont choqués de l'accueil que l'on réserve aux Nord-Coréens.
Mais est-ce que cette vieille génération qui a connu la guerre, comme vous dites, a aussi été élevée dans l'idée qu'un jour, la Corée retrouverait son intégrité? Ou est-ce que même cette génération-là, finalement, y a renoncé en disant, écoutez, maintenant les Nord se débrouillent?
Cette génération-là a toujours au fond d'elle ce vœu intime de tous les Coréens, un petit peu idéalisé, d'avoir une Corée réunifiée. Mais une Corée réunifiée, probablement, par la force. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'à Pyongyang, on pense à une Corée réunifiés. Mais ce que les Nord-Coréens, on oublie de le dire, ont en tête, c'est qu'eux, ils ont une vision assez spéciale, puisqu'ils envisageraient une sorte de fédération qui serait grosso modo une péninsule et deux pays.
Qu'est-ce qui se passe après les Jeux Olympiques? Vous l'avez évoqué tout à l'heure en disant finalement on revient à la case départ, on revient à quoi en fait? On revient au statu quo où on a laissé là les États-Unis et la Corée ces derniers mois, on revient à quoi à la fin des Jeux Olympiques?
À mon avis, on va revenir à des tensions élevées parce que Donald Trump aura du mal à accepter, comme la communauté internationale, le fait que la Corée du Nord soit un pays nucléarisé. Or, la Corée du Nord n'a aucune intention de renoncer à l'arme atomique qui, depuis 2012, fait partie intégrante de son identité et est inscrite dans la Constitution.
Donc avec des tirs à venir, de nouvelles provocations dans ce sens-là, je lisais dès le démarrage de votre livre, la guerre finalement, on ne sait pas tellement si elle aura lieu, c'est quand elle aura lieu. Donc on est toujours dans cette espèce de fuite en avant là, aujourd'hui ou pas ?
Oui, je pense que les exercices militaires conjoints américano-sud-coréens vont reprendre au mois d'avril, que ça va relancer des tensions et que les Nord-Coréens, même s'ils vont essayer de garder un dialogue avec la Corée du Sud, peut-être organiser justement des rencontres de familles séparées, reprendre un dialogue, vont de toutes les façons continuer imperturbablement leurs essais nucléaires, leurs essais balistiques. Ça ne changera rien sur ce plan-là, même s'ils vont encore une fois essayer de renouer directement avec la Corée du Sud.
Juste une dernière chose, j'ai une curiosité là-dessus. Est-ce qu'on peut imaginer des transfuges pendant ce passage au Sud de cette énorme délégation? On a l'impression qu'ils sont extrêmement surveillés, bien sûr, puis on a une idée très ex-URSS, finalement, de tout ça. Est-ce qu'on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là quand on est coréen du Nord ?
Je pense que les athlètes nord-coréens qui sont en Corée du Sud ont été triés sur le volet, donc j'ai du mal à y croire. Et je pense également que, finalement, ça mettrait la Corée du Sud dans un embarras extrême, et que même les Sud-Coréens n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait des transfuges, parce que c'est de l'intérêt de la Corée du Sud et de Moon Jae-in de réussir ces Jeux Olympiques.
Juliette Morillo, merci beaucoup, merci mille fois. Je rappelle qu'avec Dorian Malovic, vous avez écrit Le Monde selon Kim Jong-un, et c'est publié chez Robert Laffont, c'est tout neuf. Merci beaucoup.
Merci. France Inter, Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde à Rio, avec le bras de fer qui continue entre la mairie évangéliste et le carnaval. Florence Paracolos est au Chili, en Sibérie et au pays des chips aussi. On verra ça dans un instant. Les médias en 360, Dorothée Barba. Il fait pas bon fêter la Saint-Valentin en Pakistan, apparemment.
Oui, les chocolats et les fleurs sont une menace très grave. Interdit d'en parler dans les médias.
Et Anthony Bélanger pour l'édito. Ce sera à 18h55. Anthony, la Macédoine va s'appeler?
On ne sait pas encore, mais c'est en tout cas le conflit le plus absurde de la planète. Je pèse mes mots, une espèce de gloubi-boulga géopolitique. Je vous expliquerai ça.
Des conflits absurdes, vous savez. On pourrait se battre là-dessus. Allez, à tout de suite. Un jour dans le monde continue avec une escale à New York. Tiens, David Byrne, Everybody's Coming to My House.
The skin.
David Byrne sur France Inter. Everybody's coming to my house. Eh ben, il faut fermer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
France Inter.
Good evening and welcome.
Yerasmachevo Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars, Florence Paracolos à la recherche des infos cachées dans les recoins de la planète. Vous nous emmenez au Chili pour commencer, qui mène une guerre sans merci à la malbouffe.
Et voici ce que les Chiliens ne verront plus du tout à la télé dès l'an prochain.
Olana Mordisco, delicioso sándwich con cremoso helado sabor vainilla entre dos galletas sabor chocolate.
Ah, on comprend même sans traduire les délicieux sandwichs à la crème.
Voilà, alors des pubs pour les crèmes glacées, les gâteaux, le chocolat, banni des écrans publicitaires, télé, radio, cinéma, ils le sont déjà des programmes pour enfants et c'est la dernière salve de la guerre totale engagée contre l'obésité au Chili. Deux tiers des adultes obèses ou en surpoids, la moitié des enfants depuis 2 ans. Le Chili va plus loin que tout ce qui se fait ailleurs dans le monde. Jugez plutôt. Interdiction des personnages sur les boîtes de céréales et les paquets de gâteaux. Les tigres Kellogg's, les lapins Nesquik, les M&M's qui sourient, c'est fini. Interdiction des Kinder Surprise. Bah oui, il y a des petits jouets, mais ça incite les enfants à les manger. Les boissons sucrées, Coca-Cola, etc. taxées à 18%. Et tous les produits trop riches en sucre, en sel, en calories ou en graisse saturée désormais sont tamponnés de gros logos noirs sur leurs emballages. L'industrie alimentaire n'a rien pu faire. Les lobbies sont restés inefficaces face à la volonté du sénateur haut en couleur, un sénateur chirurgien de profession qui a porté la réforme et face à la volonté de la présidente chilienne socialiste Michelle Bachelet qui est pédiatre de son état, c'est le New York Times qui raconte tout ça. Ce qui est épatant dans cette histoire, c'est que cette politique est en train d'amener les entreprises à revoir leurs recettes pour éviter de tomber sous le coup des logos noirs. Ces mesures drastiques sont donc en train de rendre plus vertueuses ces entreprises de l'industrie agroalimentaire. 20% des produits alimentaires ont changé de recettes. Ça ne se voit pas encore sur les courbes de poids de la population parce qu'il faudra du temps. Et les promoteurs de cette guerre contre l'obésité espèrent que le prochain président ne va pas tout mettre par terre. Sébastien Piñera est de retour, homme d'affaires conservateur au pouvoir entre 2010 et 2014. Il a été réélu, il va prendre ses fonctions le mois prochain. Lui, président, avait mis son veto à tous ses projets de loi alimentaires.
Du Chili jusqu'à la Sibérie, Florence, on est dans le Schwarz à Krasnoïarsk.
Bravo.
Merci.
Je vais vous faire dire des titres de SAS. Un épais brouillard flotte, Fabienne, sur cette cité industrielle sibérienne. La ville aurait même été la plus polluée du monde le week-end dernier.
Krasnoïarsk,
voilà, l'air chargé. On ne s'étonnera pas tellement de cette pollution, vu que la ville abrite une des plus grosses usines d'aluminium de la planète. Le problème, c'est que pour mesurer le taux de particules fines dans l'air là-bas, il n'y a pas d'organisme habilité, pas d'air Krasnoïarsk. Il n'y en a nulle part en Russie. Alors, ce sont des citoyens qui ont investi dans des capteurs français produits par la société Air Visual, qui mesure et compile les données du monde entier. Il y en a 7 à Krasnoïarsk qui enregistrent régulièrement un dépassement des normes et qui publient une carte de la pollution en temps réel. Ce sont des citoyens qui font ça. C'est interdit par la loi. Les seules données publiques là-bas sont celles de la météo. Et pour eux, pour la météo, il n'y a pas de problème. Pas de problème évidemment, puisque pas de matériel pour faire ces mesures, pas de matériel moderne. Les capteurs en Russie datent parfois de l'URSS. Le pays commence tout juste à se préoccuper de la question. Poutine, en visite à Krasnoïarsk hier, a demandé un plan local d'amélioration de la qualité de l'air. Le ministère de l'écologie, même sous la pression des écolos, commence à s'équiper de matériel.
Allez Florence, maintenant vous m'obligez à faire ça.
Ça vous êtes en train de manger des chips, Fabienne.
Attendez, je vais le refaire. Vous voulez pas ?
Alors déjà, je note que vous n'avez absolument pas écouté le début de cette chronique sur la malbouffe.
Bah bon, attendez, vous m'obligez à manger des chips.
Vous mangez des chips. Est-ce que vous aimez ça, Fabienne ?
Pas tellement, en fait.
Oh, bah alors, alors vous êtes tout à fait dans la cible de la patronne de Pepsi qui estime que nous, les filles, sommes un petit peu timorées en matière de croquage de chips. Les jeunes garçons mangent des chips, se lèchent les doigts avec allégresse et quand ils atteignent la fin du paquet, ils versent les dernières miettes directement dans leur bouche. Bon, Et les femmes, elles aimeraient faire la même chose, dit la patronne de Pepsi, mais elles ne le font pas parce qu'elles n'aiment pas mâcher trop fort en public comme vous Fabienne, parce qu'elles ne se lèchent pas leurs doigts et qu'elles ne vident pas les miettes dans leur bouche. Cette dame s'appelle Indra Noyi. Si elle parle de ça, c'est parce qu'elle ne fait pas que des boissons sucrées et gazeuses. Elle produit des chips Doritos qui sont très célèbres aux États-Unis. C'est pas vous qui me contredirez, ça se vend énormément les chips Doritos aux États-Unis. Elle a donc envisagé des chips pour femmes avec un paquet plus discret, des chips qui sentent moins fort et qui pourraient se glisser dans un sac à main. Bah oui, évidemment, parce qu'on a toujours envie de glisser des chips dans un sac à main. C'est ce qu'on appelle du marketing sexiste. Les réseaux, vous imaginez bien, s'en sont émus. Il y a eu des tweets de partout. Donc Doritos, sous marque de Pepsi, a fait marche arrière. Non, 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 il n'est pas question de faire des chips pour femmes. Non, 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 nous ne faisons pas de marketing sexiste, Fabienne. Mais allez-y, croquez vos chips.
Voilà, c'est ça. Je ne le ferai pas deux fois dans ma vie. Merci Florence.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Allez, si je vous dis Carnaval de Rio, vous pensez à quoi en général ? Ah oui, facile, hein. L'image d'Épinal, c'est celle-là. Mais derrière ça, c'est un peu plus compliqué. C'est même de plus en plus compliqué depuis que Rio a un nouveau maire, un maire évangélique qui n'aime pas le carnaval. Voilà, bonsoir Anne Vignin.
Bonsoir.
Ces évangéliques, ils ne voient pas la fête, ils voient plutôt la grande débauche du carnaval. Donc, ça veut dire pas d'efforts financiers non plus. Si les gros groupes de samba ne sont pas trop pénalisés parce qu'ils ont beaucoup d'argent par ailleurs, les blocos, les groupes de rue, ont beaucoup plus de mal. Et on comprend tout ça grâce à votre reportage, Anne.
C'est une conférence de presse très attendue qui s'est déroulée à Rio de Janeiro à la mi-janvier. Le maire Marcelo Crivella va enfin parler du carnaval. Une centaine de journalistes sont présents, les télévisions locales sont en direct et on espère en apprendre plus sur l'agenda du maire pour le prochain carnaval. Il faut dire que l'an dernier, un mois après sa prise de fonction, le maire avait fui la ville pour le carnaval et n'avait pas remis les clés de la ville au roi Momo comme le veut la tradition. Du jamais vu à Rio. Quelques mois après, il décidait de réduire de moitié les subventions publiques pour le carnaval. Une décision totalement inédite qui a provoqué une levée de boucliers générale dans le monde carnavalesque. Alors pour cette conférence de presse, Marcelo Crivella joue d'emblée l'apaisement.
Ce n'est pas vrai, toute cette polémique selon laquelle le maire n'appuierait pas le carnaval pour des raisons religieuses ou je ne sais quoi. Un maire doit affronter les difficultés et prioriser les budgets, même s'il doit en supporter les critiques, et ça, j'ai dû le faire.
Le maire a parlé à peine 10 minutes et il a laissé son responsable municipal du tourisme affronter tout seul les journalistes qui voulaient tous connaître l'agenda du maire.
Le maire n'est pas démagogue. Il n'a jamais été au défilé des écoles de samba. Il n'aime pas le carnaval. C'est un gestionnaire. Et ce n'est pas parce qu'il est aujourd'hui maire que ça devrait changer. Et ça ne compromet en rien la grandeur du carnaval.
Donc, il ne va pas donner la clé au roi Momo.
Je n'en sais rien. Je dois vous quitter. Au revoir. J'ai une réunion.
Alors, façon d'éviter les questions des journalistes, la presse le lendemain en a conclu qu'il était bien probable que Crivella ne participe à aucun événement du carnaval. Le président de la Ligue des écoles de samba, présent aussi à cette conférence, n'a pas caché sa déception et son amertume contre le maire.
On sait bien que notre maire est un évêque de l'Église universelle et on comprend qu'il ne veuille pas participer à tout le carnaval pour des questions religieuses. On accepte, on respecte, mais on apprécierait beaucoup qu'il se plie au rituel de la tradition des clés. Ce n'est déjà pas facile cette année du point de vue économique. On a une diminution de budget de 1 à 2 millions de réals par école. Les écoles de samba ont fait des efforts et trouvé des solutions créatives pour faire face à cette diminution de moyens et offrir un spectacle magnifique.
Le spectacle que toute la ville attend cette année est le défilé de l'école de samba de Mangueira. Ils ont promis un hommage aux ennemis du maire. Pêle-mêle, les fous du carnaval, la communauté LGBT qui ne reçoit plus de subventions municipales ou encore la culture afro-brésilienne que les évangéliques voient comme diabolique. Le refrain du samba de Mangueira est on ne peut plus clair. Le vrai péché est de ne pas aimer le carnaval, dit-il. Le chorégraphe Marcelo Cioccolacci de Manghera jure pourtant que ce n'est pas vraiment un défilé contre les maires.
Je pense que non décidiu. Foi um enredo, né, que estão que veio no momento.
C'est pas que Manghera préméditait cette attaque, c'est notre samba qui est tombé à point. C'est pas pour attaquer le maire, mais bon quand même. Ils n'avaient pas besoin de nous enlever notre budget. Et à toutes les écoles de samba en plus. Seuls ceux qui travaillent dans le carnaval savent que les difficultés, nous les connaissons. Moi je crois que comme maire, il devrait au moins donner la clé et respecter le protocole. Même s'il rentre chez lui après. Il gouverne Rio de Janeiro. Il savait que la plus grande fête, c'est le carnaval. On va supporter ça ces 4 ans qui viennent. Ensuite, un nouveau maire. Les hommes s'en vont, mais le carnaval, il reste.
A gente vai embora daqui, isso aqui fica.
Autre carnaval qui reste, celui de la rue. Le maire a aussi fait des économies avec les blocos en assurant le service minimum pour la logistique. Mais surtout, le maire a imaginé regrouper les blocos dans un seul endroit et loin de la rue. Autant dire les tuer. Mais si on en croit les fondateurs des blocos comme Fabio Moraes, il n'a aucune chance.
Crivella a créé une polémique avec tous les blocos. Il veut les empêcher. Avant, la mairie nous aidait pour la logistique, la question des déchets, de la sécurité. Aujourd'hui, non. Ce qu'il veut faire, c'est un concert des blocos, un endroit fixe où les blocos se produiraient. Mais non, le carnaval de Rio est dans la rue et cela ne va pas changer.
Non, le carnaval de Rio de Janeiro est na rua. Donc, isso não vai mudar.
Face à la polémique qui ne cesse d'enfler, le maire aurait finalement consulté les évêques de l'Église universelle qui lui ont donné leur feu vert pour apparaître pendant le carnaval. Mardi 6 février, le maire s'est donc rendu au Sambodromo en pleine répétition des écoles de samba pour officiellement contrôler les infrastructures. Un peu de public était déjà là et voici l'accueil qu'il a reçu. Hey Crivella, vai tomar no cu, que l'on va simplement traduire par Crivella, va te faire voir. Pas sûr donc que le maire revienne en plein carnaval avec un sambodromo chauffé à bloc.
Et le carnaval, c'est là, c'est le 9, c'est le 10 février. Anne Vigna, Arigno, à Rio, pour un jour dans le monde. Merci beaucoup. Tix d'Autor.
Sunshine on a winter day. When I wake up in the morning, then the light from the curtain hurts my eyes when I hide and see your face.
1, 2, 3, oh.
You got me singing Georgia.
I know I'm falling.
I say you got me singing, tip, tip, tip.
s'appelle Tix Daotor. C'est un Tanzanien, figurez-vous, qui vit à Londres. La chanson s'appelle Georgia. Et c'est Dorothée Barba qui me le dit, car elle est jeune.
BBC News, Gazera, CBS Morning News,
France Inter, Public Broadcasting, le 18-20,
equals more reasons to watch.
Un jour dans le monde.
C'est pas une raison pour en profiter, Dorothée. Les médias en 360, le fake news de la semaine est interdit aux moins de 16 ans.
Oui, des vidéos de fake porno, pour ainsi dire, que plusieurs plateformes internet annoncent vouloir bannir. Alors imaginez que vous découvriez un jour que vous êtes l'héroïne d'un film porno alors que vous n'avez participé à aucun tournage. C'est ce qu'on appelle les deepfakes, phénomène qui a explosé sur internet ces dernières semaines. Des visages de célébrités qui sont transférés sur le corps d'une actrice ou d'un acteur porno, et ce grâce à l'intelligence artificielle, avec des résultats spectaculaires de réalisme. Tout est parti d'un internaute qui se faisait appeler Deepfake. Il fut le premier à fabriquer et à diffuser ce genre de vidéos. En nourrissant, si j'ose dire, l'intelligence artificielle avec des photos du visage de la célébrité, on peut ensuite déformer le visage de l'actrice porno pour qu'elle ressemble donc au visage souhaité. Une application baptisée Fake App a été créée pour permettre à tout le monde de jouer à ce petit jeu, et c'est devenu l'emballement. Une multitude de vidéos balancées sur le web. Natalie Portman ou encore Emma Watson font partie des victimes de cette mode qui pose évidemment de grosses questions éthiques et de droit à l'image. Alors aujourd'hui, les sites Pornhub, Twitter et Reddit ont annoncé leur décision de bannir ces vidéos deepfake. Tout contenu deepfake entraînera une suppression de comptes, annonce par exemple Twitter. Mais il y a fort à parier que cette communauté se délocalisera facilement sur d'autres sites internet.
Dorothée, une grosse bourde signée Mercedes en Chine qui oblige la marque allemande à se répandre en excuses.
La Chine est un marché crucial pour Mercedes. 600 000 voitures neuves vendues l'an dernier. Alors le budget publicitaire est à la hauteur.
纵横天地势不可挡全新梅赛德斯奔驰 M 级越野车
extrait d'un spot télé que vous pouvez peut-être traduire, Fabienne.
Mercedes, c'est bien, dit-elle.
Voilà, exactement. Mercedes qui s'est offert Roger Federer, d'ailleurs, pour cette pub. Le joueur de tennis ne parle pas chinois et s'est contente de conduire la voiture. Et c'est dans une autre pub, publiée cette fois sur Instagram, que la terrible faute diplomatique a été commise. La photo d'une voiture blanche sur une plage, en arrière-plan la mer, un peu agitée, et au-dessus de la voiture, cette phrase: regardez une situation sous tous les angles et vous deviendrez plus ouvert. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est très grave, Fabienne, parce que c'est une citation du Dalai Lama, figure consensuelle dans le monde entier, sauf en Chine. Le chef spirituel tibétain est la bête noire de Pékin. Alors, une citation du Dalai Lama dans une pub, ça craint. La réaction de Mercedes a été à la mesure du poids commercial de l'empire du milieu. Retrait immédiat de la pub, excuse au peuple chinois, et Mercedes d'annoncer: nous allons prendre des mesures pour approfondir notre compréhension de la culture chinoise.
Dorothée, Facebook donne dans l'engagement citoyen au Mexique.
L'Institut électoral mexicain annonce en effet avoir signé un accord avec Facebook pour lutter contre l'abstention à la prochaine présidentielle. L'accord prévoit la diffusion sur Facebook Live des débats entre les candidats. Le géant américain promet aussi d'inciter les électeurs à se rendre aux urnes. Difficile de ne pas voir dans cet accord une façon pour Facebook de se racheter une virginité politique. On se rappelle que le réseau social a été accusé de favoriser l'arrivée au pouvoir de Trump grâce aux fake news.
Et on termine avec des ballons en forme de cœur.
Oui, le 14 février approche dangereusement. Si vous détestez la Saint-Valentin et son déluge marketing rose, eh bien estimez-vous heureuse d'avoir tout le droit et tout le loisir d'en dire du mal. Au Pakistan, il est interdit d'en parler. L'autorité pakistanaise de régulation des médias a prévenu hier les chaînes de télé et de radio qu'il était interdit de promouvoir la fête des amoureux, de plus en plus populaire chez les jeunes pakistanais. L'année dernière, déjà, la haute cour d'Islamabad avait interdit la fête, jugée indécente et propre à la culture occidentale. Mais c'est la première fois que les médias sont ainsi rappelés à l'ordre. Réaction d'un journaliste pakistanais sur Twitter: les prêcheurs de haine qui incitent à la violence au nom de l'islam sur les ondes bénéficient du soutien de l'État pakistanais. Mais les vendeurs de fleurs et de ballons en forme de cœur sont un danger.
Eh bien, dites-moi, merci beaucoup Dorothée Barba et les médias dans le monde. Voici Anthony Bélanger.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse sur France Inter.
L'édito d'Anthony Bélanger. Anthony, la Grèce et son voisin macédonien semblent proches d'un accord sur le nom de la toute petite République balkanique.
Alors, attendez. Pour l'instant, ça discute. Ça fait d'ailleurs maintenant 25 ans qu'Athènes Skopje discute, se fâche, se menace et rediscute, sans jamais qu'aucun accord n'ait été trouvé. Au fait, de quoi parle-t-on?
Oui, s'il vous plaît.
Probablement du conflit le plus absurde qu'on puisse imaginer. En 1991, l'ancienne République yougoslave de Macédoine décide de devenir indépendante. Elle se choisit donc un nom, République de Macédoine. Bon, c'était compté sans la Grèce et un siècle d'histoire et de guerre balkanique. La Grèce refuse qu'un autre pays puisse porter le nom de Macédoine, ce qui est aussi celui de sa province du Nord. Selon Athènes, il n'y a qu'une seule Macédoine et elle est grecque. Et pour bien se faire comprendre, plus d'un million de personnes ont manifesté plusieurs fois en 1993 à Athènes et à Thessalonique. Et pour encore mieux se faire comprendre, eh bien Athènes bloque toute adhésion de sa voisine à l'Union européenne et à l'OTAN, deux institutions où pour adhérer, il faut l'unanimité des membres. Mieux encore, elle impose à l'ONU l'usage de l'acronyme ARIM ou FIROM.
Donc c'est l'ancienne République yougoslave de Macédoine.
Oui, exactement, et FIROM, c'est l'acronyme anglais. La Grèce a même imposé, écoutez bien, un blocus terrestre de 20 mois dans les années 90, alors que la Macédoine n'a pas de façade maritime, c'est-à-dire qu'elle l'a bloquée, parce qu'elle exigeait que cette petite république pauvre de 2 millions d'habitants change son drapeau. Skopje avait en effet à l'époque décidé d'y placer, vous savez, le fameux soleil de Virginia, un symbole découvert sur une tombe royale attribuée au père d'Alexandre le Grand, Philippe de Macédoine. Le blocus n'a été levé que lorsque le drapeau a été changé. C'est dire si le sujet est sensible. Et la question est plutôt, mais pourquoi? Parce que vu de Paris et même du reste du monde, il y a même 130 pays qui reconnaissent la Macédoine sous son nom actuel de République de Macédoine. C'est au mieux incompréhensible, au pire totalement délirant. En fait, cette affaire remonte aux guerres des Balkans du siècle dernier. Une époque où la Macédoine historique, qui s'étale aujourd'hui sur le territoire de trois pays, Grèce, Macédoine donc, et Bulgarie, a été partagée, la Grèce récupérant la part du lion, à savoir Thessalonique, plus sa région.
Donc les Grecs soupçonnent leurs voisins de vouloir remettre en cause le partage.
Ils n'ont pas que de mauvaises raisons de le soupçonner. Régulièrement, des mouvements nationalistes panslaves du Sud expliquent vouloir réunifier la Macédoine avec Thessalonique pour capitale. Mais bon, ces mouvements sont totalement ultra-minoritaires. Il est temps d'en finir avec cette pantalonnade qui nuit avant tout à la Grèce. Je vais donner un seul exemple. Les Chinois ont investi dans le port grec du Pirée. Vous le savez, c'est parce qu'à travers les Balkans, leurs produits ont un accès direct à l'Europe du Nord. Allemagne en tête. Une route des Balkans qui passe par la Grèce, bien sûr, mais ensuite par la Macédoine, justement. Je sais bien que les Chinois sont patients, mais pas au point d'attendre encore 25 ans qu'Athènes se décide à manger son chapeau. Alors, à la décharge d'Athènes, les gouvernements successifs de Macédoine n'ont pas aidé. Ils ont édifié partout des statues monumentales d'Alexandre le Grand. Ils ont aussi nommé des avenues, des stades et même l'aéroport international Alexandre le Grand.
Bref, et rapidement, personne n'est raisonnable dans cette région.
Si, figurez-vous. Ah. Enfin, un peu de raison dans ce gloubi-boulga géopolitique qui met l'histoire et l'orgueil national. Le gouvernement macédonien a d'abord débaptisé l'aéroport et Alexis Tsipras, le premier ministre grec, a décidé de commencer à négocier sérieusement. C'est un début qui a été sévèrement critiqué dans les rues d'Athènes où des dizaines de milliers de personnes sont descendues pour protester il y a quelques jours. Mais quelque chose qui s'apparente à du bon sens a commencé à être utilisé de part et d'autre de la frontière gréco-macédonienne.
Et c'est un peu grâce à vous, Anthony Bélanger. Merci beaucoup. Le 18-20 continue avec Sébastien Pavour.